Alors ça, c'est ma prison, ça, c'est mes sphères. J'arrive aux solutions et je voudrais vous dire très rapidement, un peu en tout cas, les grandes têtes de chapitre, parce que c'est le chapitre le plus long, comme Rémi l'a dit, et c'est vrai que ce sont des solutions aussi d'attaque, quelques-unes que j'ai ajoutées, mais je crois, je vous ai dit à quel point nous avons renfloué les banques et à quel point nous n'avons rien eu en retour. Au contraire, le seul retour que nous avons eu, c'était on nous dit il faut repayer et il faut recasser. Alors moi, je prétends tout simplement que les banques sont à nous. Elles n'existeraient pas si nous n'avions pas payé les uns et les autres, pas seulement en France. Elles n'existeraient plus, ou alors leurs actions seraient cotées en centimes. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on ouvre son portefeuille pour quelque chose? Ben, on s'attend à un bien, un service, un avantage futur, on s'attend à quelque chose. On ne donne pas de l'argent comme ça en le faisant tomber d'un avion sans avoir un retour. Alors, qu'est-ce qui devrait être le retour pour les citoyens, et s'ils sont suffisamment nombreux pour en être conscients, je crois que ce n'est pas utopique de dire que l'on peut faire quelque chose, et bien les banques devraient être totalement ou partiellement socialisées, le crédit doit être considéré comme un bien commun. Alors là, je ne veux pas dire que c'est sans règles et qu'on distribue l'argent, le panier sur la place du marché, mais simplement que les PME, PMI, dans un pays comme la France et dans toute l'Europe, c'est eux 90% de l'emploi. Ce n'est pas les grandes transnationales qui n'ont d'ailleurs aucun problème pour avoir du crédit. Il faudrait que les banques soient obligées de prêter prioritairement aux PME, PMI qui ont un projet écologique ou un produit innovant social. C'est-à-dire entreprises gérées collectivement ou d'une manière sociale avec son personnel. Et que ces entreprises-là devraient être aidées. Il faut aller chercher l'argent là où elle est. Et là où elle est, le monde croule sous l'argent. Il n'y a pas de manque d'argent dans le monde. C'est toujours dans le royaume de la finance. Et donc, effectivement, il faut mettre en œuvre la proposition d'attaque sur la taxe sur les transactions financières. Maintenant, même le président de la République est pour. Je crois qu'il n'a pas encore pris sa carte à l'attaque. Non, pas en 45. Je crois que Mme Merkel n'a pas pris sa carte non plus à l'attaque Allemagne, mais voilà deux dirigeants qui, il y a 10 ans, nous auraient ri au nez en disant « Vous êtes des enfants bien gentils », mais tout à fait hors des réalités, tout à fait utopiques. Bon, maintenant, on a des gens très sérieux, pas que M. Sarkozy soit très sérieux, c'est pas ce que je veux dire, mais par exemple, l'homme à la tête des autorités des services financiers en Angleterre, lui aussi est pour une taxe. Les Américains sont contre, Jean-Claude Trichet à la Banque centrale est contre, mais bon, moi, j'ai l'habitude que toutes ces choses-là, ça prend très longtemps. Et je pense que nous sommes un peu comme les gens qui demandaient des impôts sur le revenu à la fin du 19e, début du 20e siècle. Et ça aussi, il fallait 15-20 ans pour que ça se réalise. Mais je suis persuadée que ça va se réaliser. Il faut fermer les paradis fiscaux. Les paradis fiscaux abritent au moins 13 000 milliards de capitaux. Et c'est au moins 250 milliards qui ne sont pas perçus en impôts chaque année. Si on pouvait percevoir ces impôts-là, il n'y aurait aucune possibilité de parler de il faut réduire les retraites, il faut couper dans la sécu, il faut licencier 16 000 enseignants, etc. Parce que tout est là. Mais les entreprises transnationales ont appris, et les individus riches ont appris à jouer avec ces paradis fiscaux de façon magistrale, et il y a un manque à gagner très très grave dans ce sens. Il y aurait aussi à annuler la dette pour les pays pauvres, ça fait 15 ans qu'on en parle, on ne le fait pas, la réduction a été minime, faisons-le, seulement faisons-le avec des conditions, c'est-à-dire une condition de réafforestation pour absorber du CO2, que ce soit contrôlé par les gens dans des villages d'Afrique par exemple, qui puissent replanter des arbres. Ça stabilise les sols, ça stabilise aussi l'eau et l'eau des pluies. Ça n'aurait que des conséquences avantageuses. Et nous pourrions impulser cela avec l'annulation de la dette. Mais il ne faut pas de l'angélisme non plus. Il y a eu beaucoup de vols dans le sud. Il y a eu beaucoup d'élites qui ont renvoyé des capitaux qui étaient venus en tant qu'aide, entre guillemets, ou en tant qu'investissement, ou de prêts, ou de dons, et qui sont repartis la même année. Je donne des statistiques dans le livre, mais de l'Afrique, c'est au moins 420 milliards de dollars qui sont partis. Et qui sont dans des comptes en banque, que nos banques sont très heureuses de recevoir d'ailleurs, mais qui ont été volés aux Africains ordinaires. Alors, soit nos grandes institutions, telles la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, le savent et laissent faire, et donc ces institutions sont complices, ou alors elles ne le savent pas. Et le faire, et elles sont incompétentes. Mais il faut savoir lequel, et il faut arrêter ces manèges-là. Il y a d'autres sources qui disent que c'est près de 1 000 milliards chaque année qui partent du Sud, pas seulement de l'Afrique, de l'intégralité du Sud, y compris de Chine, et qui viennent dans nos paradis fiscaux et chez nos banques dans le Nord. Alors ça, c'est inadmissible. On parle de développement, on parle de notre désir d'aider le Sud, ben il faudrait cesser déjà de faire du mal. Et puis, avant tout, il faudrait utiliser la crise financière pour réparer les autres, crise d'inégalité et crise écologique. Et utiliser la finance pour financer un New Deal vert. Un New Deal vert, une conversion massive vers les techniques propres, vers les énergies non fossiles et vers un esprit qui serait l'équivalent de l'esprit du New Deal des années 30 et surtout de ce qui a finalement fait sortir les États-Unis de leur grande dépression et c'était la Deuxième Guerre mondiale. Mais nous avons l'occasion de faire voilà, la même chose. Le même type d'investissement public sans faire la guerre. L'investissement public manque. Maintenant, les États nous disent ça serait peut-être très bien, mais on n'a pas les moyens. C'est faux. Les moyens existent. Les États refusent de s'en servir. Dans les pays européens comme la France, le gouvernement ne regarde que dans le budget, le côté dépenses et coupe les dépenses, sauf les dépenses militaires. Mais les dépenses sociales, c'est les coupes sombres. Ils ne regardent pas du tout le côté recettes. Il y a toujours deux colonnes hein, dans un budget. Et nos gouvernements, particulièrement en Europe, je crains, avec la Banque Centrale Européenne, se préparent à nous replonger dans une autre crise qui sera plus durable parce qu'il y aura des gens en permanence dans le chômage qui ont perdu leur capacité, leur connaissance et ils font tout comme si les politiques de Keynes, de John Maynard Keynes, le grand économiste anglais qui avait inventé la sortie de la dernière très grande crise, comme si cette technique n'avait jamais existé, comme si on n'avait jamais entendu parler de l'investissement par l'État pour justement relancer l'emploi, relancer l'investissement et renoncer en gros le changement de paradigme dans l'économie. Alors ça, très rapidement, c'est un certain nombre de choses que je propose et qui sont aussi, dans certains cas, des propositions d'attaque. Je vais peut-être finir sur, si vous avez envie de lire le livre, peut-être maintenant que vous m'avez entendu et vous avez un certain nombre d'idées du contenu. D'ailleurs, ma fille qui m'a entendu à Montpellier il y a une quinzaine de jours, elle m'a dit, mais maman, tu dis trop de choses. Les gens ne vont pas avoir envie de lire parce que toi, tu dis de ce que tu veux. Bon, ça c'est comme on veut, je ne sais pas si je dis trop ou pas assez, mais pour ceux qui étaient là ce soir, si vous avez envie de lire le livre, peut-être devriez-vous commencer par la conclusion. Parce que je pense, et qui n'est pas très long, je pense démontrer dans la conclusion que ce que je prépare, et ce que je, pas que je prépare, pardon, ce que je propose, n'est pas utopique. Et qu'il y a des raisons pour chacun de continuer dans la lutte. Beaucoup d'entre vous sont membres d'attaque, je pense. Si vous ne l'êtes pas, vous pouvez le devenir. Je n'ai aucune, comment dirais-je, hypocrisie, ni aucune hésitation à proposer des bulletins d'adhésion qui sont à la sortie, parce que, non, mais on a besoin de force. Mais si vous êtes dans autre chose, si vous êtes syndicaliste, si vous êtes écologiste, si vous êtes dans une autre instance, c'est parfait. Restez où là, où ça vous intéresse le plus. Seulement, il faut que tous on lutte, les uns et les autres, pour faire des alliances. Je demande à personne de laisser tomber son centre d'intérêt principal. Je dis simplement qu'il y a des moments où il faut avoir pris l'habitude de travailler ensemble parce que à ce moment-là, ça nous permet de nous mobiliser rapidement, d'être unis, d'être nombreux et de faire entendre à ceux qui nous gouvernent ce que nous voulons. Parce que si nous ne faisons pas assez de bruit et si nous arrivons en ordre dispersé, sans alliance et sans volonté de montrer un front uni, ben nous aurons ce que nous méritons, c'est-à-dire more of the same. Encore les mêmes politiques qui sont débiles et débilitants pour la société. Voilà, alors lisez la conclusion d'abord parce que je pense qu'il est possible de montrer que chaque acte de chaque personne et de chaque organisation peut être un catalyseur. Je vais m'arrêter là pour ne pas révéler tout le mystère. Et je vous remercie beaucoup de votre attention et j'attends vos remarques et vos critiques et vos questions. Merci beaucoup.